de vive voix. Nos territoires prennent la parole.
Bonjour chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui des établissements publics territoriaux qui contribuent à la construction du Grand Paris. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Madame Mélanie Lamant. Bonjour Mélanie.
Bonjour, je suis heureuse de vous recevoir, heureuse de voir aussi que pour parler du Grand Paris, vous venez spontanément voir les établissements publics territoriaux, parce qu'effectivement je suis convaincue que ce Grand Paris se construit à partir des dynamiques territoriales qui viennent des bassins de vie. Et c'est vrai que le cas de Plaine Commune est particulièrement représentatif de cette démarche, de cette dynamique territoriale, puisque nous sommes certes établissement public territorial depuis peu de temps, mais nous avons une longue histoire de communauté de communes, de communauté d'agglomération. Nous fêtons en 2019 nos 20 ans d'existence et on a cette chance d'avoir pu établir une collectivité qui s'appuie sur un projet politique fort, un projet de territoire fondé sur la solidarité, puisque vous savez qu'on est sur un territoire qui est plein de potentiel, hein, plein de capacités de développement, notamment par des zones d'aménagement qui restent encore aujourd'hui en friche et qui sont à développer, mais avec aussi des difficultés sociales, une population qui a des revenus faibles, un taux de chômage particulièrement élevé, et donc des élus qui ont choisi de se mettre ensemble il y a une vingtaine d'années pour profiter de l'opportunité de la mise en commun de leurs réflexions, de leurs projets, l'arrivée du Stade de France pour construire un projet de territoire au bénéfice de 9 villes. Donc 9 villes qui se sont structurées autour de documents forts, hein, un projet de territoire autour d'un SCOT, d'un agenda 21, et qui ont pour valeur de porter un développement économique qui se fasse au bénéfice des habitants, au bénéfice des populations. Ça se traduit dans nos compétences, hein, Plaine Commune. Nous avons à la fois des compétences de gestion, c'est-à-dire gestion du cadre de vie, propreté, voirie, parc et jardin, assainissement, mais aussi des compétences en relation très proche avec les habitants, l'emploi et l'insertion, la lecture public, et puis des compétences de prospective, de réflexion, l'aménagement, la rénovation urbaine, le développement économique. Et donc nous sommes en capacité de porter un projet à la fois qui porte des dynamiques territoriales fortes, de moyen terme, et qui se traduisent par des retombées immédiates pour les habitants au travers de ces compétences de proximité. Je pense que c'est l'une des particularités qui a permis aussi de créer notre modèle de qu'on appelle coopérative de ville. On sait, les élus ont pensé Plaine Commune comme n'étant pas un étage supplémentaire, un échelon supplémentaire, mais bien une coopérative au service des villes. Donc coopérative de ville, c'est une notion à la fois politique, rien n'est imposé aux maires, et Plaine Commune ne peut pas imposer un projet local dans une municipalité. En même temps, on est sur un portage global, la construction progressive d'un consensus, de compromis pour converger vers des orientations politiques très fortes. Donc on n'est pas sur de l'eau tiède, on est sur un projet de territoire dont toutes les villes, donc nos 9 villes qui ont des couleurs politiques différentes, ont pu trouver le bien fondé en comprenant que travailler des politiques publiques sur un bassin de vie avait une pertinence particulièrement forte. Et c'est vrai que dans cette construction du Grand Paris, il nous semble que la métropole du Grand Paris, cette aire urbaine particulièrement dense, ne peut réussir qu'en travaillant qu'à partir de bassins de vie, de dynamiques locales, et non pas par un émiettement de ville ou par une centralisation extrême. Et les EPT nous semblent être le bon niveau pour porter ces projets politiques forts qui peuvent, en s'articulant, faire métropole.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, bassin de vie est, si j'ai bien compris, plusieurs projets urbains et de transport qui transforment de nombreux quartiers et la vie de leurs habitants. Quelle est la contribution des citoyens ?
Alors, les citoyens dans la construction de pleine commune ont eu très rapidement une place importante, hein. D'abord, certaines villes ont choisi d'entrer dans la communauté d'agglomération après des référendums, hein, consultations des habitants. C'est un élément important. Ce projet a été choisi par les élus, mais aussi par les habitants. On a très rapidement institué à la communauté d'agglomération, et on l'a gardé en tant que PT, alors que ce n'était pas obligatoire, un conseil de développement, des citoyens bénévoles de toutes nos villes qui participent à la construction, à l'initiative de nos politiques publiques, qui formulent régulièrement des avis, chaque année un avis sur le budget qui est produit en amont du vote du budget avec des préconisations qui sont suivies, mais aussi des avis sur notre plan local de l'habitat, sur la politique du cadre de vie, sur la solidarité sur le territoire, sur les politiques culturelles, donc un organe qui est institué et qui est très important pour participer à la vision politique portée par nos élus, et puis des démarches aussi de co-construction de projets, de concertation, en s'appuyant là principalement sur les outils de démocratie participative de nos villes. Et c'est vrai que les villes de pleine commune ont un historique en termes de participation citoyenne, et on a toujours considéré que les premières porteuses de la démocratie participative étaient les communes. Donc nos collègues de l'aménagement ou de l'espace public qui participent à la construction des projets urbains s'inscrivent dans les outils de démocratie participative des villes. Et puis on a aussi, nous, pleine commune, développé certains outils, donc des balades urbaines avec les habitants. Et puis selon tel ou tel projet, par exemple pour les Jeux Olympiques, on a mis un comité de suivi Faites vos Jeux en place, qui réunit les acteurs associatifs, les habitants, les usagers du territoire, pour à la fois les informer, mais aussi prendre en compte leurs besoins, leurs envies par rapport à ces projets. Et puis régulièrement, c'est vrai que, alors là, plutôt comme beaucoup de collectivités aujourd'hui, la place du citoyen, de l'habitant, de l'usager dans la définition de nos politiques publiques est de plus en plus importante, structurante, essentielle pour réussir à être efficace dans notre service public. Donc, on a par exemple redéfini récemment notre politique du cadre de vie, une politique d'appréhension globale de notre intervention sur l'espace public, une politique qui s'est définie à partir d'assises qui avaient été organisées avec les habitants, de co-construction de la façon dont les habitants conçoivent le cadre de vie, la qualité du cadre de vie, et donc une politique publique qui a été redéfinie à partir de cette appréhension beaucoup plus globale qu'ont les habitants, que ce qu'on a, nous, techniciens, de ces enjeux de bien vivre dans l'espace public. Donc c'est vrai que c'est un élément de plus en plus important, mais qui faisait partie de l'ADN de pleine commune, cette participation des habitants et des usagers.
Oui, l'usager est vraiment un levier pour redéfinir le petit public.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les usagers aujourd'hui sont de plus en plus exigeants, donc y compris dans nos gros projets d'aménagement, ça suppose une pédagogie, une communication, une explication et puis une intégration des ambitions et des attentes des usagers. On le voit à la fois, je vous le disais, dans nos politiques publiques de gestion, de quotidienneté, mais aussi dans le portage de nos grands projets. J'évoquais les Jeux Olympiques, j'évoque l'arrivée des gares du Grand Paris Express ou un quartier emblématique du Grand Paris tel que celui du quartier Pleyel. On a des comités d'usagers, des comités de citoyens qui se constituent et qui sont partie prenante de la façon dont on envisage ces projets et qui sont maintenant des acteurs essentiels lorsqu'on souhaite imaginer le futur d'une ville. Peut-être par rapport à ça aussi, la particularité de nos politiques publiques, c'est d'avoir un président qui porte une attention particulière à la culture dans la façon dont on porte nos projets urbains. On avait signé un contrat de développement territorial avec l'État sur la culture, sur le territoire de la culture et de la création. Et l'idée, c'est de faire de la culture le fil rouge de notre développement, de cette démarche de territoire de la culture et de la création comme moyen d'appropriation des transformations urbaines qui vont se faire sur le territoire avec les habitants. Donc beaucoup de nos gros projets urbains, notamment de façon emblématique les enjeux de rénovation urbaine en lien avec l'ANRU, s'accompagnent de démarches artistiques avec des résidences d'artistes qui travaillent sur le long terme avec les habitants pour à la fois leur faire travailler sur le passé du quartier mais aussi sur l'avenir, sur leur vie. Et c'est un enjeu très important pour un territoire comme le nôtre qui se transforme considérablement avec les quartiers de rénovation urbaine, avec les gares du Grand Paris Express et avec les Jeux Olympiques bien sûr.
Oui, évidemment. Et je reprends certains de vos propos. Vous aviez mentionné que c'est une vision politique de l'espace public portée par les élus qui considèrent que c'est dans la place publique commune que l'on rencontre l'autre et que l'on crée une culture.
Oui, c'est vrai qu'on a ces valeurs fortes qui sont portées dans beaucoup de nos documents cadres, hein, y compris dans notre référentiel. On a créé un référentiel des espaces publics qui a comme vision l'espace public comme lieu de rencontre des habitants, comme lieu de construction de la ville. On travaille beaucoup sur le droit à la ville, sur l'urbanité. Et c'est un enjeu particulièrement important dans un territoire populaire comme le nôtre où on a tendance à dire que beaucoup de cultures se rencontrent chez nous, 134 nationalités, voire 140 nationalités. Donc on considère qu'effectivement l'aménagement de nos espaces publics contribue à cette vie citoyenne qui est essentielle au niveau local.
Merci beaucoup. Alors pour nos auditeurs, nous sommes aujourd'hui dans votre bureau face au Stade de France. Mélanie, 2024 c'est bientôt. Votre territoire accueillera plusieurs sites des Jeux Olympiques. Pourriez-vous nous dire quels impacts cela va avoir sur la nature de vos missions ?
Bah écoutez, c'est vrai que c'est un impact qui a été à la fois qui est très fort sur notre projet, hein, parce qu'avant tout, les Jeux Olympiques vont accélérer le développement de notre territoire. Je pense qu'il est important de se dire que dans ce dossier de candidature qu'avait porté Paris, le territoire de pleine commune avait cet avantage d'avoir des projets déjà ancrés dans nos schémas de développement. Donc les Jeux s'inscrivent un peu naturellement dans notre projet de territoire et les financements publics qui viennent accélérer les projets qui étaient prévus ne permettent un développement amplifié de ce que nous avions envisagé. Donc c'est un élément important. L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir quand même garder la maîtrise de ce développement dans une métropole où les phénomènes de métropolisation sont tout de même forts, où la conjonction à la fois des Jeux Olympiques et de l'arrivée des gares du Grand Paris Express pourrait faire craindre des phénomènes de gentrification, de transformation de la population et de nos quartiers. Donc l'enjeu pour nous, c'est de garder une maîtrise d'ouvrage, directe ou pas directe. C'est vrai que pour les Jeux Olympiques, on a face à nous des professionnels très aguerris avec la société de livraison des Jeux, la Solideo, avec laquelle nous devons travailler en partenariat. À pleine commune, nous avions créé beaucoup de nos outils, une SEM, une SPL, une foncière, un office public. Donc nous avions nos propres outils. Aujourd'hui, on travaille avec cette Solideo, avec la Société du Grand Paris, donc des acteurs plutôt étatiques, forts, très experts, avec des personnels très nombreux. Donc c'est vrai que pour nos collègues chargés d'opérations à l'espace public ou dans la direction de l'aménagement, c'est aussi un changement de positionnement, de pilotage de projet sans être forcément en maîtrise d'ouvrage direct. Donc c'est un changement fort de métier, de mission. Et puis c'est aussi savoir pouvoir expliquer les marges de manœuvre qu'on a, ce qu'on peut négocier ou pas, ce qu'on peut imposer ou pas à nos interlocuteurs. On est sur un projet sur lequel pleine commune met des financements. On apporte 35 millions à la maquette des Jeux, mais l'État met tout de même 1 milliard. Donc on n'a pas forcément toujours la priorité dans les choix qui sont faits. Donc c'est beaucoup de lobbying aussi, beaucoup de convictions qui sont faites pour montrer que la réussite des Jeux, elle ne tiendra pas tant à la réussite de l'événement pendant les 2 fois 15 jours que dureront les Jeux Olympiques puis Paralympiques, mais plutôt à la transformation, à la réversibilité d'un village, à l'usage, l'appropriation que se feront les habitants, les usagers des nouveaux équipements publics sportifs, des nouveaux équipements de l'espace public qui vont émerger grâce au jeu. Donc nos missions, c'est surtout de pouvoir gérer le temps long face à des interlocuteurs, des partenaires qui sont peut-être sur des temps plus courts, plus médiatiques, et de pouvoir être le garant de cette vision portée par les habitants, pour le bien-être des habitants, plus qu'une vision internationale, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, au regard de vos propos, quelles compétences pensez-vous qu'il faudra développer dans vos services ?
Je pense que, comme beaucoup de collectivités, on a encore à progresser beaucoup sur la conduite de projets multipartenariales. Donc, je vous le disais, face à des maîtres d'ouvrage, face à des habitants aussi qui sont beaucoup plus force de proposition, qui sont experts. Hein, donc, c'est une expertise du technicien territorial qui doit pouvoir être plus facilement mise en dialogue, discuter avec d'autres expertises. Donc c'est des enjeux de transversalité, à la fois en interne dans notre collectivité, avec les villes, mais aussi avec des partenaires extérieurs. C'est un enjeu extrêmement important. Ça suppose aussi d'avoir des techniciens qui ont une expertise forte, une crédibilité, une légitimité technique face à des ingénieurs de l'État, des XPON. Donc dans un contexte aussi en région parisienne où les recrutements sont de plus en plus tendus et on sent bien certaines pénuries affleurer dans certains métiers. Donc c'est un enjeu important pour les collectivités de pouvoir garder une maîtrise au service des élus locaux, une expertise au service des élus locaux. Et c'est vrai qu'on sent que dans la filière des métiers de l'aménagement, de l'urbain et de l'espace public, on est à l'aube d'un moment où ces expertises seront de plus en plus rares, de plus en plus recherchées et de façon essentielle, de plus en plus importante pour que les enjeux locaux de nos élus soient gardés en bonne place dans les priorités des projets.
Tout à fait. Merci beaucoup, Mélanie Lamand, de votre témoignage et regard porté sur ces questions. Je suis particulièrement ravi de cette première interview à vos côtés. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes DGS de l'établissement public territorial Pleine Commune, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup, Mélanie.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
De vive voix, nos territoires prennent la parole.